Divergence FM, l'interview.
Alors Xavier Derolin, bonjour, j'allais dire rebonjour, parce que vous fréquentez les studios de Divergence FM quand même relativement souvent.
Et je vous en remercie.
Alors, il y a quelques jours, on a diffusé une petite interview de vous au sujet d'un café sur le Brexit. Là, on parle de tout à fait autre chose. Là, on va parler de l'Allemagne. Après, la Grande-Bretagne qui veut absolument quitter l'Europe, il y a l'Allemagne qui, elle, veut toujours y rester. Mais vous organisez un colloque 100 ans d'Europe, l'Allemagne de 1919 à 2019. Alors vous avez des historiens, des diplomates, des chercheurs qui vont mettre en perspective les éléments de ce siècle d'histoire allemande, leurs enjeux, les influences pour la construction européenne. C'est donc très important. Et puis peut-être que les auditeurs n'ont pas idée que l'Allemagne, c'est pas si vieux que ça en fait.
Alors l'Allemagne, c'est en tant que nation, c'est pas si vieux, mais en tant que peuple, c'est aussi vieux que la France, que les Français. Alors ce qui nous a intéressé au mouvement européen héros, c'était justement qu'en cette année 2019, l'Allemagne célébrait trois dates assez importantes au cours de ces 100 dernières années. 1919, c'était l'instauration de la République, la République de Weimar. 1949, c'était la division des deux Allemagnes.
Oui, Est-Ouest.
Mais 1989, la chute du mur. Donc c'est sur ces trois jalons, on s'est demandé mais comment ces événements purement nationaux allemands, comment ces événements ont influé en bien, en mal, sur la construction européenne. Donc c'est là-dessus que s'est bâti le colloque. Donc on a demandé à différents universitaires, des chercheurs, comme vous le disiez, des diplomates, de nous donner leur point de vue, de nous illustrer cette problématique. Donc ce sera au site, sur le site Saint-Charles.
Ah, tout près de Divergence FM, on peut y aller à pied, là, c'est à quelques centaines de mètres, c'est Place Albert Ier.
Hein. Place Albert Ier, sur le site Saint-Charles de l'université Paul Valéry, qui est partenaire de cet événement. Et c'est gratuit, c'est toute la journée de 9h30 à 17h. Ce sera quatre tables rondes, donc tout au long de la journée, avec différents thèmes.
Et puis vous avez comme partenaire aussi la Fondation Konrad Adenauer.
Adenauer. Tout à fait, la Fondation Konrad Adenauer, qui est un think tank allemand, qui est présent en France, et qui nous a beaucoup, beaucoup aidé, notamment financièrement, pour monter ce colloque.
Et puis la maison de Heidelberg, qu'on connaît bien.
La maison de Heidelberg, qui est notre partenaire de cœur.
Et donc le mouvement européen héros.
Voilà, nous sommes à l'initiative de cet événement qui va aussi permettre, on l'espère, à ce que le public français découvre un peu l'histoire allemande, que l'on connaît finalement assez peu. Et donc ce sera aussi l'occasion de s'intéresser à ces grands moments nationaux allemands, mais qui intéressent évidemment la France et toute l'Europe.
Et l'Europe, alors Jean-Pierre, l'Allemagne, c'est notre partenaire privilégié, on peut le dire, sur la scène européenne, voilà. Après avoir été nos ennemis jurés pendant quelques temps. Remarque, nos ennemis jurés, c'est peut-être la Grande-Bretagne. Mais c'est une autre histoire. L'Allemagne, c'est vrai qu'elle est assez méconnue.
Oui, alors moi je trouve que ce qui est en train de se passer est extrêmement intéressant. Je ne parle pas de la construction européenne directement, mais c'est intéressant parce que avec la nouvelle génération, avec les échanges internationaux, etc., l'image de l'Allemagne a changé. C'est-à-dire que moi je suis d'une génération, je suis un enfant du baby-boom, mes parents avaient connu l'Allemagne, l'occupation, un espèce de rapports très ambigus, et il fallait être très courageux à l'époque, notamment des gens comme De Gaulle ou Adenauer, ou je pense à Monet ou des gens comme ça, pour dire bon, voilà, il s'est passé ça, mais la construction, demain, on peut faire quelque chose avec l'Allemagne. Et les morts allemands de la guerre, il n'y a pas de différence avec les morts français de la guerre.
Et tout le monde n'était pas nazi.
Pour les mêmes raisons, etc. Et donc ça a provoqué une espèce de rupture, difficile d'ailleurs, hein, politiquement. Et puis la nouvelle génération, ça ne veut pas dire qu'elle a oublié ce qui s'était passé. D'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier.
Le pardon n'est pas l'oubli.
Absolument. Et puis retenir cette fameuse phrase de Brecht qui disait « le ventre est encore fécond où la bête immonde a surgi ». Donc, parce que ça peut arriver, mais pas qu'en Allemagne, ça peut arriver.
Pas qu'en Allemagne, on voit bien qu'il y a des forces eurosceptiques, europhobes qui sont quand même très présentes, mais qui ne sont pas là non plus par hasard. La construction européenne heurte beaucoup de choses, il faut changer de mentalité, il faut changer d'économie, enfin, L'abandon du Deutschmark a été, entre guillemets, un beau cadeau que l'Allemagne a faite à l'Europe, mais justement, c'est ce qu'on traitera dans le colloque, cette arrivée de l'euro, cette acceptation de l'euro par Helmut Kohl, était en gros une contrepartie à la réunification allemande, à la chute du mur, à la réunification allemande.
Bien sûr.
Et donc la France, François Mitterrand à l'époque, a justement profité de cette faille, on va dire, dans l'histoire allemande, pour pousser l'Allemagne à s'intégrer de plus en plus dans la construction européenne. Et c'était très dur pour Helmut Kohl, dans les années 90, de faire accepter l'euro et l'abandon du Deutschmark, surtout à ses concitoyens. Il a dû faire face à des manifestations monstres. Et il a tenu. Et voilà, donc, la chute du mur de Berlin est l'origine de l'euro.
Oui, absolument. Mais moi, je trouve que ce colloque est intéressant parce que, justement, la vision de la Seconde Guerre mondiale pour aller vite, etc., vis-à-vis de l'Allemagne, a complètement occulté l'histoire de l'Allemagne, c'est-à-dire ce siècle qui vient de se passer pour les Allemands.
Oui.
C'est fini, la vieille Prusse, etc., elle existe probablement dans l'esprit de quelques-uns, mais en tout cas, je dirais que le peuple allemand a enfin eu une nation. Ce qui est un peu différent de ce qui s'était passé précédemment.
Et puis dans les années 20, donc, on va commencer le colloque par ça, parce que c'est aussi quelque chose d'assez méconnu. Il y a un premier rapprochement franco-allemand avec Aristide Briand côté français, Gustav Stresemann côté allemand, où justement qui a amené Briand devant la Société des Nations, c'était un peu l'ONU de l'époque, à réclamer une fédération, une coopération plus importante, une intégration européenne. C'était vraiment les débuts. L'Allemagne était prête à y répondre. Stresemann, qui était le ministre des Affaires étrangères, était prêt à y répondre, mais il est mort 2-3 jours après l'annonce de Briand. Et donc voilà, l'histoire a été changée.
A été changée, c'est bien dommage, parce que c'est vrai que l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, aurait pu devenir un partenaire privilégié de la France d'abord et de l'Europe ensuite.
Oui. Mais les mentalités n'étaient peut-être pas
prêtes
encore, puisque la France était arc-boutée sur la revanche. L'Allemagne doit
sur le traité de Versailles.
Sur le traité de Versailles. Ouais. L'Allemagne faisait face à des difficultés économiques énormes. La bête immonde était là, couvait sous les cendres, et Hitler allait prendre le pouvoir, enfin arriver au pouvoir démocratiquement en 1933.
Alors, c'est vrai que si
Jean-Pierre, je vous en prie.
Les gens qui vont venir là savaient la production intellectuelle qui s'est faite juste après, moi je parle dans le cadre de la République de Weimar, même si ça a été difficile, hein, parce qu'il y a eu des mouvements révolutionnaires qui existaient. Bon, je pense aux spartakistes, à Rosa Luxembourg, etc. Mais moi je pense par exemple à quelque chose qui a été. Je suis très sensible au problème de l'architecture, mais c'est vrai que le Bauhaus, ça a été un mouvement absolument phénoménal, dont on retrouve d'ailleurs encore actuellement les traces.
Les traces, oui, tout à fait. Hein,
dans la réflexion, la manière de concevoir toutes ces disciplines culturelles. Donc je trouve que c'est très intéressant en tout cas.
Alors merci Xavier de Rolin d'être venu encore une fois dans notre petit studio du 24 Boulevard Pasteur. Là on est vraiment pas loin de là où va se dérouler le colloque.
Ah oui,
le 23 novembre, je vous rappelle, c'est ouvert, c'est gratuit. Donc ça vaut la peine, si vous voulez savoir un peu plus de ces 100 ans d'Allemagne, de cette histoire méconnue, là aussi, hein, souvent avec les mouvements européens, vous luttez contre les idées reçues, on peut dire ça.
Complètement, oui. Hein,
contre les idées reçues sur l'Europe, sur le fonctionnement de l'Europe, et sur ce qui nous guette toujours, les gens qui veulent se replier sur eux-mêmes, qui sont frileux et qui sont souvent dans l'erreur et souvent dans le mensonge.
Ben, il faut, à mon sens, essayer d'établir un récit commun, nouveau, européen, qui ne soit plus franco-français ou germano-allemand ou anglo-anglais. Il faut maintenant essayer de comprendre les histoires des autres pour essayer de bâtir un avenir ensemble.
Eh bien, cet avenir ensemble, allez déjà écouter ce colloque le 23 novembre de 9h30 à 17h30, site Saint-Charles de l'Université Paul-Valéry. C'est boulevard Henri IV, tram Louis Albert Ier, c'est juste à côté de Divergence. Et puis Xavier de Rolin, merci d'être venu. Et à une autre fois, parce que vous en avez des choses à nous raconter sur cette Europe.
Complètement, merci beaucoup à vous.